Louis.
Chaque semaine, nous pénétrons dans la jungle des émotions. Nous pensons, nous décortiquons, nous analysons, mais surtout, nous ressentons. Et comme tout ce qui nous traverse passe par notre cerveau, mais aussi par notre corps, dans cette mini-série, nous allons voyager au cœur de nos cinq sens et de nos émotions. Dans ce dernier épisode, nous découvrons que les chemins du goût sont multiples et mystérieux. Dans son roman « Le coût de la vie », l'écrivaine Deborah Lévy nous livre un récit poétique d'une période de sa vie de femme. Un passage m'a particulièrement marquée. Elle y évoque sa mère, gravement malade, à qui elle rend visite chaque jour à l'hôpital. Au cours de cette agonie, sa mère ne peut ni manger ni boire. Mais la narratrice découvre qu'il existe une marque particulière de glace à l'eau qu'elle peut, par miracle, avaler. Avant chaque visite, elle achète donc une glace chez son épicier, au citron vert, à la fraise ou à l'orange. Et puis un jour, dit-elle, le grand ordre des glaces a été bouleversé. Chez l'épicier, il n'y a que des glaces au chewing-gum. Après avoir fait un scandale dans le magasin, la narratrice finit quand même par acheter une glace au chewing-gum. Deborah Lévy écrit « Sur le trajet de l'hôpital, je me disais que c'était une catastrophe. Et de fait, c'en était bien une, puisque ces glaces étaient plus ou moins les seules choses qui maintenaient ma mère en vie, jour après jour. Ce qui me frappe dans ce passage, hormis la situation tragicomique, magnifiquement retranscrite par l'autrice, c'est cette impression assez universelle d'associer au goût une sorte de pouvoir surnaturel. C'est un peu ce qu'on entend dans l'expression « retrouver le goût de vivre » ou « reprendre goût à la vie ». Comme si le goût avait une fonction vitale presque magique qui nous raccroche à l'essentiel. On dit souvent que les Français ont tendance à constamment parler de ce qu'ils mangent. C'est très culturel et je suis sûre que vous avez toutes et tous déjà fait l'expérience d'un repas convivial pendant lequel le seul sujet de conversation et la nourriture. Mais si les goûts, les aliments, les saveurs sont si présents dans nos échanges et dans nos pensées, c'est parce que nous savons à quel point ils sont vecteurs d'émotions et nécessaires à notre bien-être. Comment les émotions les plus intimes naissent-elles avec l'expérience gustative? Y a-t-il plusieurs façons de goûter? Quel impact ce sens a-t-il sur nos émotions? Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions. Jean Piccinotti a 43 ans et il habite à Marseille. Il m'a raconté son rapport personnel au goût, à distance, depuis son jardin, au milieu des champs d'oiseaux. Jean a été graphiste pendant une quinzaine d'années, puis libraire. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Lorsque je travaillais dans le monde du livre, il m'est arrivé d'aller dans sa librairie pour des rencontres professionnelles. À chaque fois, ces rencontres se terminaient par un repas partagé, au restaurant ou cuisiné par Jean. D'ailleurs, rien qu'au nom de sa librairie, qui s'appelait « La soupe de l'espace », on pressentait déjà son amour pour la nourriture.
Je suis un dingue de l'artichaut. Ah, c'est dit. L'artichaut, c'est un truc... En plus, il y a un goût de noisette que je retrouve dans l'huître, dans certaines huîtres. C'est ça que j'aime bien. L'artichaut, c'est un truc que je pourrais en manger toute l'année, vraiment. Et j'aime bien... Enfin, en plus, moi, j'adore les manger crus. Et ça prend un temps pas possible. Ça te laisse une trace noire sur les dents, sur les gencives, sur les lèvres, comme c'est pas permis. C'est vrai, ça te laisse une espèce d'affreté partout. Mais j'ai un truc, j'adore ça. Voilà. J'adore prendre le temps de le manger. C'est presque une cérémonie. Donc c'est... Tu me dis comment manger des artichauts, je dis c'est bon, banco, on y va quoi. C'est vraiment, c'est con, hein, mais je peux les manger hyper nature. Et ouais, c'est un peu ma madeleine en fait.
Il y a quelques mois, Jean a pris un grand virage professionnel et a ouvert un restaurant et bar à huîtres à Marseille. Ça s'appelle Les Amateurs.
Je pense que l'idée d'ouvrir un restaurant, c'est vraiment venu de l'envie d'ouvrir quelque chose, enfin, qui est vraiment relatif au lien social. C'est-à-dire que j'avais envie d'un lieu qui fédère les gens. La question gustative, c'était évidemment quelque chose de très important d'assez primordial, mais c'est quelque chose qui est venu plutôt après. Ma démarche
professionnel était d'abord motivé par une démarche humaine. Voilà. Un restaurant, et plus particulièrement la géométrie bar à 8 que j'ai ouverte, c'était un truc de vouloir amener quelque chose d'autre dans un lieu qui fédère des gens, qui rassemble, qui est un lieu de vie.
Si Jean a ouvert un restaurant, c'est aussi parce qu'il trouve un grand plaisir gustatif et sensoriel à travailler les fruits de mer.
Le premier truc que je fais, c'est quand j'arrive au restaurant, c'est je prends mon banc des cahiers, j'ouvre, je regarde mes bourriches et je les goûte. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je les ouvre, je les vois. Donc je vois. Enfin, les huîtres, c'est assez facile à vérifier parce que c'est un animal qui est vivant, donc qui réagit à chaque interaction, que ce soit une goutte de citron ou la lamelle d'un couteau qui va effleurer l'huître. Mais c'est surtout un gros kiff que je me fais me faire un shot d'iode dès 9-10 heures le matin, parce que c'est truffé de bonnes choses, quoi. Je prends, très honnêtement, peut-être plus de plaisir à les ouvrir qu'à les manger même, tu vois. Je me rends compte, enfin, j'ai choisi un peu scrupuleusement les producteurs avec lesquels je voulais travailler. Et je sais, tu vois, parce que il y a des gens qui me disent, enfin, il y a pas mal de gens qui sont habitués à ce que les huîtres soient, dans l'imagerie collective, l'huître et le fruit de mer, c'est quelque chose de plutôt chic et cher, on va dire. Mais pas pour les personnes des anciennes générations, pour qui, au contraire, les huîtres, les moules, les choses comme ça, les oursins, c'est des trucs qu'ils trouvaient sur les bords de mer et qui coûtaient vraiment pas très cher. Et c'est, je crois que c'est ça qui me plaît le plus, en fait, quand je mets mon tablier et que je m'apprête à en ouvrir, quoi.
Qu'on aime ou pas les fruits de mer, force est de constater que ce sont des aliments tout à fait uniques et étranges. Leur aspect visuel, leur texture, l'iode qui s'en dégage, leur culture.
Donc là, j'avais que des oursins de Galice, mais ils sont tellement chargés que du coup, on a vraiment cette possibilité de voir là. Et en fait, il y a tellement de nuances de coups, de orange, de forme, de circonvolution, de piquant, que c'est assez enivrant. On n'a jamais l'impression de travailler les mêmes produits. Pourtant, c'est toujours la même espèce qu'on travaille, quoi. Pour les huîtres, c'est un peu pareil. Il y a des huîtres que je trouve absolument mais splendides et enfin, presque que j'admire parce que je trouve assez dingue que la nature soit capable de faire des choses aussi belles. Et bon, pour le coup, je vais parler de sensations qui sont assez adultes parce que il y en a des huîtres quand je les ouvre ou même certains oursins quand je les ouvre. Enfin, il y a un truc quand même, je trouve hyper sexuel en fait. Voilà, il y a des formes quand j'ouvre les spéciales de la maison G. Suivant comment je l'ouvre, en fait, j'arrive vraiment à décoller la partie du dessus qui vient se recoller sur la chair inférieure et c'est sexuel, mais je trouve ça très beau, en fait, voilà. C'est sexuel au sens où ça rappelle beaucoup certaines parties anatomiques féminines, mais c'est joli, c'est délicat, c'est. Je veux pas rapprocher du tout, faire de rapprochement maladroit entre les fruits de mer et. Mais il y a peut-être un peu de ça quand même.
Vous avez remarqué, quand Jean parle de son goût, il évoque tout de suite des images, des couleurs, des gestes.
Quand j'étais gamin, que je voyais ma mère cuisiner, que j'entendais ma sœur qui disait « ça sent bon », je comprenais qu'elle dise « ça sent bon ». Je comprenais que les gens aient ce sens-là. Et moi, je disais tout le temps « ça a l'air bon ». Et je pense que les gens n'ont jamais... Ma mère, par exemple, elle n'a jamais fait gaffe au fait que je dise « ça ». Mes parents se sont rendus compte très tardivement que j'avais pas de droit. Moi, je m'en suis rendu compte très tôt quand j'ai regardé les textes avrés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce que j'adore dans les textes avrés. Au-delà du gag, toutes les 3-4 secondes, je pense que c'est vraiment un truc, c'est genre 3-4 secondes, vraiment les gags dans les textes avrés, c'est un truc de dingue. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était quand le loup, par exemple, il était embarqué par les volutes de fumée dans la cuisine. Et je voyais ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Je voyais un truc surnaturel et j'ai mis longtemps à comprendre parce que les textes avrés quand tu la regardes quand t'as 3-4 ans tu rigoles parce que c'est un gag mais il y avait un événement un peu surnaturel quoi. Je me disais mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il vole, et c'est voilà, c'est, ça résume un peu l'état de pas forcément d'incompréhension mais de ni de solitude mais le truc, je me dis bon bah en fait moi c'est pas ça quoi. Voilà, moi je pourrais jamais vivre un truc pareil, même dans mes rêves les plus dingues, ça n'arrivera pas.
Jean est anosmique. Ça signifie qu'il n'a pas d'odorat, qu'il ne sent aucune odeur. Il est né comme ça. Il me raconte que lorsqu'il l'annonce, beaucoup de gens lui disent qu'il a de la chance car il ne sent pas les mauvaises odeurs, ce qui a le don de beaucoup l'énerver. Car bien évidemment, c'est un peu plus subtil que ça. Effectivement, l'odorat et le goût sont deux sens profondément liés. L'anosmie implique donc un goût modifié, car on ne peut pas associer à ce qu'on mange l'odeur qui l'accompagne. En revanche, l'absence d'odorat ne signifie pas l'absence de goût. Le sucré et le salé se distinguent très nettement, de même que les textures et les particularités gustatives telles que l'iode, par exemple.
À mon égard, je ne sais pas ce que ça change, parce que je te dis, je ne sais pas ce qui me manque. Alors, il y a beaucoup de gens qui... Enfin, beaucoup de gens. Ma mère, surtout, quand même, qui me dit tout assez souvent, « Mon Dieu, mais t'es sûr que tu ne voudrais pas faire quelque chose pour voir si tu ne peux pas essayer de la retrouver, de la recouvrir ?» J'ai dit « Mais non, non, je n'ai pas envie, parce qu'imagine qu'un jour je la reperde, enfin, c'est terrible, quoi. Je n'ai absolument pas envie de ça. Je sais que, enfin, voilà, j'ai quand même cette espèce de forme de complexe, parce que, enfin, le goût est là, et tout le système de rétro-olfaction ne fait pas du tout partie de mon écosystème. Toutes les saveurs olfactives que les gens peuvent avoir et qui vont déployer, en fait, les saveurs gustatives derrière, l'interaction qu'il va y avoir entre elles, tout ça, je l'ai pas. Je t'avoue que je complexe beaucoup sur le sujet et que, du coup, je mets un point d'honneur à ce que les plats qu'on va présenter soient visuellement hyper appétants, donnent envie. Et quand les gens découvraient mon anosmie, que je leur parlais de ça et qu'ils me disaient « Mais comment tu peux cuisiner alors que t'as pas d'odorat ?» J'ai dit « En fait, j'ai des yeux, un oignon cramé, ça se repère quand même. Il y a des choses qu'on voit. » Voilà. Et enfin, je dis ça parce que c'est important, parce que quand on cuisine, enfin, l'odeur est quelque chose d'hyper suggestif, quoi. C'est que, en plus, dans les circonstances actuelles, on fait de la restauration du midi, on fait des plats emportés. Je bosse avec un chef qui a fait une école de haute gastronomie, qui a bossé avec quelqu'un de triplement étoilé, qui a connu les brigades, qui a une exigence culinaire qui est très très forte. Et dans la présentation, c'est le seul moyen, le seul levier qu'on a, en fait. C'est-à-dire que les gens ne sont pas là, ils peuvent pas rentrer dans le restaurant, donc on a mis le paquet, et c'était aussi ce qui me plaisait, de pouvoir présenter des produits. Enfin, quand je prends les plats en photo, j'ai un plaisir immense à les prendre en photo, parce que au-delà du fait que ça soit visuellement magnifique, je sais que c'est délicieux. Ce qui me plaît le plus, en fait, en plus là-dedans, c'est que quand je cuisine, je suis obligé de cuisiner un peu à l'instinct. Parce que n'ayant pas de base déjà professionnelle et n'ayant pas de base olfactive pour m'aiguiller là-dedans, j'y vais à l'instinct. J'ai la mémoire des choses, je sais ce que goûtent beaucoup d'épices, mais j'y vais vraiment beaucoup à l'instinct. J'ai pas la prétention de dire que j'ai d'autres sens qui sont plus développés, parce que ça voudrait dire qu'en gros j'ai une espèce de sursens, tu vois, qui sont plus développés que d'autres personnes, mais je sais par définition que j'ai que l'anosmie m'a poussé, en fait, malgré moi ou volontairement ou inconsciemment, j'en sais rien, tu vois, mais à développer d'autres sens. Enfin, moi je pense que le sens chez moi qui est le plus développé, c'est plutôt Louis, parce que depuis gamin je crois que je t'en avais parlé, que j'enregistrais des sons, il y a un truc assez organique là-dedans, quoi. Et ça me fascine, en fait. C'est les voix des gens. Je suis hyper, hyper perméable aux voix des gens et je les retiens tout le temps.
Si les saveurs et les odeurs sont profondément liées, l'histoire de Jean nous prouve que le goût est un sens qui se cultive et se travaille. Parfois, plus que la saveur même d'un plat, ce qui va nous marquer, ce sera ses nuances de couleur, la sonorité de son nom, le plaisir qu'on a eu à le préparer ou le rire de la personne avec laquelle on le déguste. Chacun de nos cinq sens est imbriqué avec les autres, car notre corps tout entier, de par sa capacité à sentir et ressentir, transforme les expériences en émotions. Venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Merci à Jean pour son témoignage et sa disponibilité. C'était le dernier épisode de la mini-série sur les cinq sens et les émotions. Si vous n'avez pas écouté les autres, je vous conseille de les découvrir pour mieux comprendre comment les odeurs peuvent nous rendre nostalgiques. Comment une œuvre d'art peut faire pleurer. Comment la musique peut raconter une histoire. Ou pourquoi nous avons besoin d'être touchés. Maud Benakcha est la chargée de production d'Émotions. Cet épisode a été réalisé par Marine Kéméré, mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, qui a également fait la prise de son, et Nicolas De Gélis a composé le générique d'émotion. La composition musicale a été créée par Marine Kéméré et Nicolas Vert. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondons. Si cet épisode vous a mis en appétit et que vous vous interrogez sur le lien entre vos habitudes alimentaires et vos émotions, je vous conseille d'écouter ou de réécouter « Est-ce grave de manger ses émotions ?» l'épisode réalisé par Cyrielle Bedu et Lauriane Meulière. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts « Travail en cours »,« Passage », »,« Injustice », »,« Fracas », »,« Une autre histoire », »,« Entre » ou « Le Book Club ». Bonne écoute et à bientôt.
Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2024, ce sont les 70 ans de la fin de l'Indochine française. Et aujourd'hui, plus de 150 000 personnes en France ont, comme moi, un de leurs parents né en Indochine.
J'ai côtoyé la mort tout le temps, jusqu'à ce qu'on parte en France. Mais on a vécu avec le bruit de la guerre d'une façon quotidienne. Et je crois que si je ne dors pas, même maintenant si je ne dors pas, mais parce que ça m'est resté. Tous les bruits qu'on entendait, puis qu'on avait peur, je crois qu'on ne dormait jamais.
Je suis Anaë Bosser et dans Ma Tonkinoise, je tire le fil de mon histoire familiale, de Saïgon en 1954 à Marseille en 2024.
Mais ce qui me frappe en ce qui concerne la guerre d'Indochine, c'est comme si je dois faire une autopsie d'un oubli.
Découvrez Ma Tonkinoise sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.